continuer cet effort d'entrer dans ce libre état. Est-ce qu'il y a des questions par rapport? Oui, dites. Le fondement implique un pos, et le principe, tout, le fondement n'est pas un principe, c'est une base, c'est un pos, c'est quelque chose qui existe, un fondement. Alors, on emploie fondement dans un sens tellement multiple, et on pourrait dire la cause matérielle, c'est toujours du côté de la cause matérielle, le fondement. Est-ce que le fondement, est-ce que c'est la cause matérielle? Non. La cause matérielle est une cause, un principe. Tandis que le fondement, c'est réalité, existe. Ça existe, du reste, quand on prend fondement, les fondements d'un édifice, c'est la base. C'est une réalité qui existe à partir de là. Vous voyez, c'est lié aux éléments. Les éléments sont des fondements. Et les éléments, c'est un pos dans l'ordre, philosophie de la nature. Ce n'est pas un principe, les éléments. L'eau, la terre, ce pas des principes. Ce sont des manières d'exister. Ce sont des manières d'exister simples, et c'est pour ça qu'on dit éléments. Un élément n'existe jamais tout seul. Il ne peut pas exister tout seul. Puisque les quatre éléments existent toujours liés entre eux. Vous ne pouvez pas avoir l'eau pure. Je le connais quand il s'abusait beaucoup. Son année sabbatique dans la Fribourg. Alors, je le connaissais un petit peu parce que j'avais des amis communs. Marchand de Connais dit, quand je vais dans une université européenne, on dit, qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire, monsieur le professeur? Alors je réponds, j'essaie de comprendre ce que c'est que l'eau. Alors on prend pour un fou. Qu'est-ce que c'est que l'eau? C'est vrai, les éléments, ça n'existe pas, l'état d'éléments. Ça existe toujours, mais nous, quatre. C'est vrai que les éléments demeurent. Hein. Une année à Fribourg, j'ai fait tout un petit séminaire avec un professeur de chimie, pour savoir si face à la chimie contemporaine, nous pouvions garder les quatre éléments d'existence. Où il fallait une considération purifiée. Les éléments ont commencé par un mythe. Et les éléments, c'est un mythe. Puis ça a été intégré dans une philosophie chez Aristote. Et face à la chimie contemporaine, on doit se demander si de fait les éléments d'Aristote doivent rester ou pas. Or, les éléments d'Aristote sont inférés à partir des qualités sensibles. Le chaud, le froid, c'est à partir des qualités sensibles. Les éléments demeurent. Et les éléments sont toujours liés les uns avec les autres. Vous voyez la question? Alors, ce serait intéressant de faire ça avec un astronome. De regarder si la quintessence peut demeurer avec le progrès de la philosophie. Ces questions-là sont très importantes parce que, au fond, ça n'a jamais été traité. On dit la physique d'Aristote est périmée. Qu'est-ce que ça veut dire? La nature n'est pas périmée. La nature forme et la matière matière, c'est pas périmée. La physique contemporaine est à un autre niveau. Alors, c'est très vrai que la physique contemporaine, la science physique, a purifié des quantités de choses du philosophe. Ça, c'est sûr. C'est que je crois que les sciences modernes purifient le regard du philosophe. Parce que le philosophe est obligé de comprendre qu'il y avait des quantités de choses un peu imaginatives. Et il y a des tas de choses imaginatives dans le Decello d'Aristote, c'est bien évident. Voilà. Ce qui serait très intéressant, quelqu'un qui serait compétent dans la matière au point de vue proprement scientifique, devrait donner un livre expurgé du Decello. Qu'est-ce que nous pouvons garder du Decello d'Aristote? Qu'est-ce que nous devons rejeter et purifier?
comme le dégénérationné qui joue sur les éléments, voir qu'est-ce que nous pouvons purifier, qu'est-ce que nous devons rejeter. Vu ce que c'est, comme le livre de la Guglielmina, qu'est-ce que nous devons rejeter, qu'est-ce que nous devons en face de la biologie contemporaine. Les sciences n'atteignent pas les principes, ils atteignent des lois. Alors, chez Aristote, les principes ordinairement sont bien saisis comme des principes, mais à côté des principes, il y a des tas de choses, le pose, mais c'est à l'égard du pose que la science vient purifier, c'est pas à l'égard du principe. Alors, il faut comprendre que les éléments, ce sont les premiers, les comment de la réalisation de la nature. Les principes nature-forme, nature-matière, se trouvent réalisés fondamentalement dans les éléments. Les éléments sont du côté donc du fondement. C'est le pose. Et c'est du côté de la cause matérielle. Et c'est le premier pose de la causalité matérielle. C'est ça le fondement. Alors, ce qui est sûr que dans la philosophie contemporaine, le fondement a pris une importance énorme. Parce que ayant abandonné la recherche de la cause finale, on ne recherche plus que les fondements. C'est très net, il y a des choses très curieuses. Ça a une espèce de répercussion en théologie. Une répercussion en théologie. En théologie, on cherche les fondements. Dans le cuménisme, on cherche les fondements communs. On ne cherche pas la finalité. On cherche les fondements communs. Le baptême, c'est le fondement commun. C'est pas ça qui fait l'unité. Ce n'est que le fondement. Ce qui fait l'unité, c'est la finalité. Alors, c'est très important de comprendre ça au point de vue philosophique contemporaine.
Comment les quatre éléments peuvent rester si c'est de l'ordre du pose et que la science moderne
peut plus. Il y a des degrés en pose. Il y a des degrés descriptifs, il y a des degrés plus profonds. Quand vous êtes dans l'ordre du pose, hein, il y a des quantités de comment. Mais c'est sûr que la science moderne est du côté du comment. Et elle ne fait pas la distinction de l'analyse, parce que constamment, les lois sont du côté du comment. Puisque c'est voir si A existe, B existe. On cherche une connexion. Pour que B existe, il faut qu'il y ait telle ou telle condition. C'est du côté des conditions. Alors à ce moment-là, on voit comment la chose peut apparaître. Ce n'est pas du côté du principe. Donc c'est du côté du comment. Alors c'est très vrai que le comment scientifique purifie certains comment philosophiques qu'Aristote avait donné. C'était encore trop gros. Pas tous. Et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir jusqu'où ça va.
Est-ce que dans l'ordre du comment, on arrive à voir la relation entre quantité et qualité?
Sûrement que dans le comment est impliquée la relation, puisque la quantité est toujours de l'ordre du comment.
Le pose philosophique sera plus du côté de la qualité.
Toujours, c'est la cause matérielle et la quantité. C'est pas la cause matérielle pure, c'est la quantité dans la cause matérielle, c'est mesurable. Comment du côté de la cause matérielle. Il y a un comment dans toutes les causalités. Ça, c'est, je crois que le seul comment qui n'existe pas, c'est du côté de la finalité. Il y a un comment du côté de la cause efficiente, il y a un comment du côté de la cause formelle, il n'y a pas de comment du côté de la finalité, je crois pas. Posez-vous la question. Ça, c'est intéressant. Y a-t-il un comment du côté de la finalité? Je ne crois pas. Je crois que le pose, le comment ne peut pas exister du côté de la finalité. Je ne vois pas ce que ce serait.
Est-ce que la découverte du comment peut modifier le principe parfois?
Ben, le comment peut modifier, peut purifier notre saisie du principe. Parce que notre saisie du principe, quand il n'est pas assez pur, reste liée à des comment.
Mais pas le modifier.
Non. Vous voyez, toute la question, si vous voulez, une question très simple à voir, hein, on va toucher la question, génétique, hein, parce que vous avez ça derrière la tête. Hein. La question génétique. La manière dont Aristote présente le point de vue de la procréation. L'aspect de la cause matérielle et la cause efficiente. Oui. On voit très bien qu'il y a dans tout un esprit où le, à la fois le comment devrait préciser certaines choses. Oui. Devrait préciser que la cause matérielle, au fond, est une cause qui implique des éléments actifs. Ces éléments actifs sont du côté du comment. Parce que la cause matérielle et l'état pur n'existent jamais dans le monde vivant. C'est une matière vivante. Or, une matière vivante implique le comment. Et une matière vivante impliquant le comment implique nécessairement des éléments actifs. Donc, ce que dit Aristote est très juste, mais nous ne devrions plus le présenter comme ça aujourd'hui. Parce que notre sensibilité ne peut pas le comprendre. Alors nous devrions le comprendre du côté, justement, en mettant le comment. Ce que le savant, alors, nous apporte. Oui.
Alors, voyons chapitre 7. Parmi les choses qui sont en devenir, donc nous sommes toujours dans la question de savoir si la forme est substance. C'est ça qu'il faut toujours se demander. Hein, et voir comment la substance, l'ousia, a un dépassement par rapport à la forme. Parmi les choses qui sont en devenir, les unes le sont par nature, d'autres par l'art, et ou par l'effet du hasard. Mais toutes deviennent par quelque chose et à partir de quelque chose, quelque chose. Nous l'avons déjà dit, mais nous relisons rapidement. Pour vous mettre dedans, c'est bien ça, hein, parce qu'on avait vu ça rapidement. Ça. Quelque chose, et ce quelque chose, je l'entends en fonction de chacune des catégories. Qu'il s'agisse en effet du ceci, c'est la substantielle, de la quantité ou de la qualité ou du lieu. Vous voyez, Aristote situe là tous les devenirs. Le devenir substantiel, le devenir quantitatif, c'est la croissance. Le devenir qualitatif, c'est l'altération. Et le devenir du lieu, c'est le fait de bouger. La translation, comme on dit. La translation, c'est le lieu. Il faudrait se demander pourquoi dans les autres catégories, il n'y a pas de devenir. Il n'y a pas de devenir dans la relation. Il n'y a pas de devenir dans le situs. Il n'y a pas de devenir dans le temps. Il n'y a que les 1, 2, 3, 4. Sur les 10 catégories, il n'y en a que 4 qui fondent, qui sont source de 4 mouvements. Alors pourquoi, hein? Aristote ne le dit pas. Constate. Nous devrions chercher pourquoi. Pourquoi, de fait, il n'y a que 4 catégories. C'est intéressant à se poser la question, parce qu'autrement, on répète ce que dit Aristote. Tant que je n'ai pas cherché le pourquoi, je répète. Alors, la substance, la qualité, la quantité, et le point de vue du lieu. Alors, le mouvement dans la substance, c'est la génération. Le mouvement dans la qualité, l'altération. Le mouvement dans la quantité, la croissance. Mais ça dit ça dans la physique, dans la philosophie de la nature. Et le mouvement du lieu, la translation. Le mouvement dans le lieu, translation. Et pour Aristote, le mouvement le plus parfait, c'est le mouvement de la translation. Parce que ce mouvement de la translation peut exister dans les astres. Tandis que le mouvement de croissance, d'altération et d'agénération sont absents du monde céleste. Le monde céleste impliquant la quintessence n'implique pas ces mouvements qui sont des mouvements sublunaires. C'est notre monde sublunaire, ça. Ça, c'est ce que dit Aristote. Hein. Je répète ici ce que dit Aristote. C'est notre monde sublunaire implique génération, altération, croissance. Tandis que le monde céleste, qui est divin n'implique pas de corruption, n'implique pas de croissance, n'implique que le mouvement selon le lieu. Et le mouvement, c'est pour ça que le mouvement selon le lieu, c'est le mouvement le plus parfait, parce que c'est le mouvement qui atteint le point de vue, le lieu finalise. Donc c'est le mouvement qui finalise la translation. Oui. Alors vous pourriez vous demander, faites-le dans votre petite cogitation, demandez pourquoi dans les autres catégories, il n'y a pas de mouvement. Alors on peut dire évidemment, c'est une constatation.
Bien sûr, c'est une constatation, mais on peut se poser la question du pourquoi.
Pourquoi pas de mouvement dans la question du temps ? Le temps est mesure du mouvement. Parce qu'il est mesure du mouvement, il ne peut pas être dans le temps. Donc, il est mesure. Alors ça, c'est intéressant. Parce que vous avez donc la question du temps, mesure. Et il est avant tout mesure de la translation. Ça, c'est évident. Lieu et temps se tiennent de cette manière. Le mouvement dans le lieu est mesuré par le temps. Et vous voyez l'accélération du mouvement. Donc les deux choses se tiennent. Donc, quand il s'agit du temps, c'est facile. Pourquoi n'y a-t-il pas de mouvement dans la relation ? Pas de mouvement dans la relation. Parce que le mouvement fonde une relation. Alors, vous avez le fondement, vous voyez là. Le fondement d'une relation, c'est peut-être l'action et la passion. Pourquoi pas de mouvement dans l'action et passion ? Parce que action et passion sont mouvement. L'analyse du mouvement implique action et passion. Donc, il ne peut pas y avoir de mouvement. Pourquoi pas de mouvement dans le situs ? Ah, le situs est lié au lieu. Donc le mouvement dans le lieu va changer le situs, c'est tout. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas de mouvement dans le situs, sans absolu. Et puis alors, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a l'habitus. Alors, comme ça, vous les aurez tous. L'habitus, c'est une conséquence de l'utilisation que je fais d'un outil. Que je fais dans quelque chose dont je me sers, je transforme cette chose-là. L'habitus, c'est l'habit qui fait qu'il y a une relation entre celui qui le porte et l'habit. Vous usez un habit. Comment se fait-il que dans un tas énorme de manteaux, une pile de manteaux, celui qui se sert de ce manteau le découvrira, et les autres jamais? Non, non, c'est une chose très spéciale. C'est pas uniquement ça. C'est curieux, c'est très curieux. À distance, on touche. Voilà. La pipe, ça se comprend. Oui, c'est l'usage. Oui. Au fond, l'habitus, c'est la conséquence de l'usage. Quand j'use de quelque chose, il y a un lien de propriété. C'est ça l'habitude, c'est le lien de propriété. Je suis lié à ça.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même un ordre de devenir de mouvement dans cette acquisition ?
Dans l'usage, il y a un certain mouvement. Mais quel mouvement d'usage ? Venez, est-ce que l'usage présuppose un mouvement ou est-ce que l'usage est un mouvement ? L'usage, je m'applique. Oh.
Est-ce qu'on ne peut pas en fait le rapporter aux deux mouvements que sont l'altération et la croissance ?
Je crois qu'on l'a traché, ça se ramènerait à l'altération et la croissance. Il n'y a pas de mouvement propre. Ça implique un autre mouvement. Ça, toujours, forcément, quand j'use de quelque chose, il y a un mouvement. Quand je me sers de ma pipe, une fois, c'est qu'il y a un mouvement, je m'en sers. Quand je me sers de tournevis, je m'en sers, il y a un mouvement. Et en fond, le mouvement selon le lieu, si ça creuse, n'est-ce pas, si ça ne creuse pas ce niveau d'altération, alors il y a une modification qui se fait entre celui qui s'en sert et celui qui est servi. Et c'est ce lien de modification qu'on appelle le vitus. Vous voyez donc, dans toutes les autres catégories, je vois qu'il ne peut pas y avoir de mouvement caractéristique. Donc les seuls mouvements qui sont propres, c'est ces quatre mouvements. Ça, c'est un aspect aussi très aristotélicien, comme analyse. Alors, vous voyez donc ici, Aristote les cite. C'est pour ça que je vous le fais là, pour que vous compreniez que ce n'est pas... C'est juste qu'on doit connaître ça. La philosophie de la nature nous met en face de ces quatre mouvements. Vous voyez, d'autre part, que, évidemment, ici, la croissance, c'est le vivant. Il n'y a pas de croissance en dehors du vivant. La génération, c'est le vivant. Tandis que l'altération et la translation peuvent exister indépendamment des vivants. Donc vous avez deux mouvements fondamentaux au niveau purement physique et deux mouvements qui sont propres aux vivants. La translation, évidemment, a un caractère particulier chez le vivant puisqu'il se meut. Mais quand on est nu, on est quand même dans un mouvement local. Vous dégringolez un escalier. Pas l'expérience, vous dégringolez un escalier. Il y a un mouvement du volume, du poids. Les générations dites naturelles sont celles-là même dont la génération se fait à partir de la nature. En réalité, c'est la nature vivante. Mais Aristote dit ça à cause, vous voyez, des éléments. Il peut y avoir un passage constant d'un élément à l'autre. C'est pour ça que pour Aristote, la génération est d'abord saisie au niveau du vivant et elle est vue jusqu'à la nature. Un mouvement naturel. Les générations dites naturelles sont celles-là même dont la génération se fait à partir de la nature. Et ce à partir de quoi se fait la génération, nous l'appelons matière. Ce par quoi il y a génération, une de ces choses, étant par la nature, ce qui est le produit de la génération, est un homme, une plante ou quelque autre chose de cette sorte. Et ce sont ces choses que nous disons principalement être des substances. Le produit de la génération est dit substance. C'est quelque chose qui a son autonomie, c'est ça que je veux dire. Quelque chose qui est son autonomie, quelque chose qui est le fruit d'un mouvement fondamental. Et le fruit du mouvement fondamental, c'est ce que nous appelons substance. Toutes les choses qui viennent par la nature ou par l'art possèdent une matière. Donc vous voyez comment on détermine la matière. C'est ce qui est nécessaire pour expliquer un mouvement. Condition sine qua non pour expliquer le mouvement. Tout mouvement implique une matière. Il ne peut pas y avoir un mouvement sans qu'il y ait une matière. À partir de quoi se fait la matière? À partir de quoi se fait la réalisation artistique? En effet, chacune d'elles a la capacité d'être ou ne pas être. Et cela, c'est la matière qui se trouve en chacun, en chacune. D'une manière générale, ce à partir de quoi se fait la génération est nature. Ce selon quoi elle se fait aussi est nature, oui, est aussi nature. En effet, ce qui devient possède une nature, comme la plante ou l'animal. Et ce par quoi elle se fait est la nature dite selon la forme et d'une forme identique. Mais celle-ci est dans une autre, en effet, un homme engendre un homme. Ainsi donc, les choses en devenir deviennent à cause de la nature. Et les autres générations sont appelées des réalisations. Toutes les réalisations sont artificielles. C'est l'art. La différence entre réalisation et génération. Ainsi donc, les choses en devenir deviennent à cause de la nature, et les autres générations sont appelées des réalisations. Toutes les réalisations proviennent d'un art, d'un pouvoir ou d'une pensée. Certaines parmi elles proviennent aussi du hasard, automatos, et de la fortune, presque de la même façon que pour les choses qui deviennent par nature. Car certaines choses, là aussi, tout en étant semblables, naissent ou d'une semence ou sans semence. Il faudra donc examiner plus tard ce qui concerne ces choses. Quant à celles qui proviennent d'un arbre, leurs idées se trouvent dans l'âme. J'appelle idée la quiétité de chaque chose et la substance première. Je vous avais dit l'importance de ce petit passage, parce qu'Aristote, d'un seul coup, situe la pensée platonicienne en disant la pensée platonicienne n'a pas dépassé la connaissance artistique. C'est rude, mais c'est comme ça. Jugement d'Aristote sur Platon. La connaissance artistique n'a pas dépassé la philosophie de Platon n'a pas dépassé la connaissance artistique. Puisque dans l'ordre artistique, l'idée est substance. Et c'est vrai que l'idée est substance. Dans la perspective platonique. Et en effet, la forme des contraires est d'une certaine manière la même. Car la substance de la privation est la substance de son opposé. Par exemple, la santé, celle de la maladie. La substance de la santé, c'est la substance de la maladie. Ils ont même substance. Puisque la maladie comme telle ne peut se comprendre qu'en fonction de la santé. Impossibilité de comprendre la maladie pour elle-même. C'est pour ça qu'il n'y a pas de science de la maladie. Il y a la science du vivant qui peut être malade. C'est par le vivant qui peut être malade que nous pouvons saisir les manques, les privations. La privation ne se saisit que par le point de vue absolu. Car c'est par l'absence de celle-là que se produit la maladie. Par l'absence de la santé que se produit la maladie, pour que la maladie existe. Tandis que la santé, c'est la notion qui est dans l'âme et cet objet de science. La santé naît comme suit dans une âme qui pense, puisque c'est cela la santé. Il est nécessaire, si on veut obtenir la santé, que cela soit réalisé. Par exemple, un équilibre. Pour acquérir la santé, il faut rétablir un équilibre. Un équilibre d'humeur. Hein. Entendez bien, c'est toujours les humeurs. Pour rétablir la santé, il faut rétablir l'équilibre du bœuf. Et la santé proviendra ensuite. Et pour cela, que soit produit de la chaleur. Or, c'est toujours ainsi qu'on pense, jusqu'à ce qu'on parvienne à quelque chose que l'on puisse finalement produire soi-même. Ça va. À quel moment on peut intervenir? Sur quoi on peut intervenir? Tant qu'on n'a pas découvert le moment sur lequel on ne peut pas intervenir. Et c'est vrai ça, regardez, c'est comme ça qu'un artiste opère quand il doit rétablir, je ne sais pas quoi, quelque chose qui ne va pas. Un mécanicien, c'est comme ça aussi. Hein? Le mécanicien, il essaie de voir où ça cloche, où il peut intervenir. Alors, il recherchera jusqu'où. Et c'est la même chose. Le médecin cherche le moment où il peut intervenir. Vous voyez, Aristote donne tout le processus là. La santé naît comme suit dans une âme qui pense. Dans une âme qui pense. Puisque c'est cela la santé, il est nécessaire, si l'on veut obtenir la santé, que cela soit réalisé. Par exemple, un équilibre, une harmonie, et pour cela que soit produit de la chaleur. Or, c'est toujours ainsi qu'on pense. Jusqu'à ce qu'on parvienne à quelque chose que l'on puisse finalement produire soi-même. C'est alors que le mouvement provenant de celui qui a ainsi pensé s'appelle réalisation. C'est-à-dire le mouvement en vue d'avoir la santé. En sorte qu'il arrive que d'une certaine façon, la santé viennent de la santé et la maison de la maison. Et que de ce qui est sans matière vienne ce qui a la matière. En effet, la médecine et l'architecture sont la forme de la santé et de la maison. Or, j'entends par substance sans la matière la cupidité. Vous voyez le raisonnement qui donne à ça. C'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est premier dans le mouvement. Qu'est-ce qui est premier dans le mouvement ? Eh bien, dans le mouvement artistique, ce qui est premier, c'est la cupidité, c'est l'idée. Et donc, dans le mouvement artistique, l'idée joue le rôle de substance, de la source. Toujours cette idée que la substance, c'est l'arché, c'est ce qui est premier. Donc, dans le mouvement artistique, c'est l'idée, la cupidité, c'est-à-dire la forme sans la matière. La cupidité, c'est la forme sans la matière. On ne peut pas oublier dans Aristote. Hein. C'est la cupidité, c'est la forme sans la matière. Donc c'est l'idéal. Et c'est à partir de cela que se fait la réalisation. Et donc l'idée joue dans l'ordre de la connaissance artistique, dans l'ordre de la réalisation artistique, le rôle de la substance. Des générations et des mouvements, un aspect est appelé conception, un autre réalisation. Ce qui provient du principe et de la forme étant la conception, ce qui provient de la conclusion de la conception étant la réalisation. C'est de là, de la même façon, c'est de la même façon que se produit chacune des autres choses intermédiaires. Je dis que si cet exemple, on veut être en bonne santé. Il faut qu'on ait un équilibre. Qu'est-ce donc que d'avoir un équilibre ? Eh bien, c'est telle chose. Et cela ne se réalisera que si l'on peut être réchauffé. Si on est froid, alors c'est toute la question de la chaleur. Mais qu'est-ce que c'est que cela ? Eh bien, c'est telle chose. Or, cette chose existe en puissance et elle est alors au pouvoir de celui qui veut être en bonne santé. Certes, ce qui réalise et d'autre part le mouvement pour être en bonne santé, s'il parvient de l'art, c'est l'idée qui est dans l'âme. Mais s'il provient spontanément, automatos, c'est tout ce qui sert de projet de départ à la réalisation de celui qui réalise par art, par exemple, de celui qui est réalisé par art. Par exemple, dans le fait encore de guérir, se trouve probablement au point de départ le réchauffement. Et on réalise cela par une friction. Donc, la chaleur qui est dans le corps, ou bien est une partie de la santé, ou bien est suivie d'une chose de même nature, qui est une partie de la santé, soit directement, soit par d'autres intermédiaires. Ce dernier intermédiaire, celui qui réalise la partie de la santé, est ainsi, lui aussi, partie de la santé. Et c'est le cas aussi pour la maison, par exemple les pierres, et pour les autres choses. En sorte que, comme nous le disons, il est impossible qu'il y ait devenir si rien n'existe en premier. Tout devenir présuppose un principe qui n'est pas en devenir. Ça, cette idée d'Aristote qui est une idée constante chez lui. Et il faut chercher ce qui est premier en dehors du devenir pour comprendre ce que c'est que le devenir. Autrement dit, le devenir ne se comprend jamais par lui-même. Le devenir est trop inintelligible. Il n'a pas assez d'être pour être intelligible. Il faut donc quelque chose qui est au-delà du devenir pour comprendre le devenir. Le devenir n'a pas d'intelligibilité propre. Ça, c'est la réponse, vous voyez, à Héraclite, le Pantarel. Le devenir comme tel ne peut pas être intelligible. Il faut donc quelque chose d'autre que l'intelligible, quelque chose d'autre que le mouvement pour le rendre intelligible. Et c'est le principe. La découverte de la nature, principe du mouvement, donne au mouvement son intelligibilité propre. Parce que le devenir comme tel ne peut pas être intelligible. Il passe tout le temps. Donc il faut l'au-delà du devenir pour comprendre ce que c'est que le devenir. C'est ça que ça veut dire. En effet, la matière est une partie, car elle est immanente à l'être, et c'est elle-même qui devient. Il est donc manifeste qu'une certaine partie devra nécessairement préexister. En effet, la matière est une partie, car elle est immanente à l'être, et c'est elle-même qui devient. Existe-t-elle aussi dans la définition des choses? C'est de deux façons que nous disons ce que sont les cercles des reins, en disant leur matière, à savoir les reins, et leur forme, à savoir telle figure. Et celle-ci est le genre dans lequel on les place en premier lieu. C'est-à-dire, ainsi donc, le cercle des reins possède en sa définition la matière. Est-ce que vous arrivez à suivre ce point de vue d'Aristote? C'est très serré, c'est presque du style très télescopé, pour montrer que l'analyse du devenir exige de sortir du devenir. C'est ça qui est important. Alors vous sortez du devenir par le bas, vous sortez du devenir par le haut. Forcément. Le sortir du devenir par le bas, c'est la matière. Et vous sortez du devenir par le haut, c'est la cause efficiente. C'est celui qui a pensé le devenir, c'est l'idée. Mais le devenir comme tel ne peut pas se comprendre en lui-même. Parce qu'il est essentiellement quelque chose qui passe. On ne peut pas descendre deux fois dans le fleuve. Donc vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que le foutu du fleuve. Le devenir du fleuve vous échappe. Il y a quelque chose qui demeure, c'est justement le lieu où le temps en passe. Ça, cause matérielle, qui contient, qui est le lieu, qui contient. Ou la source, qui est au-delà du devenir. À cause.
Est-ce qu'ici, c'est dit, on peut échapper au devenir par le haut ou par le bas? Et ici, dans ce qu'on vient de dire,
par les deux. Par les deux, puisque par l'idée d'une part, l'idée artistique, la réalisation, et d'autre part, la matière. C'est pour ça qu'il dit que la matière, on est ainsi donc, le cercle des reins possède dans sa définition la matière.
Et plus haut, il dit aussi. Quand il parle de la pierre et de la maison, oui. Est-ce que c'est aussi là il parle?
C'est la cause matérielle.
Donc pas la matière.
Oui. C'est des éléments. À cause de ce à partir de quoi, comme matière, elles deviennent, certaines choses, une fois réalisées, sont dites non pas cela, mais de cela. Alors ça, c'est la question du langage. Par exemple, la statue n'est pas dite pierre. Mais de pierre, c'est une statue de pierre, n'est-ce pas? Une statue de bois, ce n'est pas une statue de bois. C'est une petite remarque, hein, intéressante. Il faut bien faire comprendre ce que c'est que la cause matérielle. La cause matérielle fait partie de l'œuvre, mais elle n'est pas l'œuvre. Ça, c'est sûr, elle n'est pas l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'elle était présupposée à l'œuvre. Tandis que l'homme qui redevient en bonne santé n'a pas le nom de l'état dont il vient. La raison en est que l'on devient à partir de sa privation et de son sujet, que nous appelons matière. Par exemple, l'homme et la statue à la fois redeviennent bien portants, et cependant, on dit plutôt que l'on devient, que l'on. On dit plutôt que l'on devient à partir de sa privation. Par exemple, c'est du malade que provient le bien portant plutôt que de l'homme. Et c'est pourquoi le bien portant n'est pas dit un malade, mais un homme, et il est l'homme bien portant. Pour ce qui est des choses dont la privation n'est pas claire et n'a pas de nom, par exemple, dans les reins, la privation de figure quelconque, ou dans les briques, les poutres, la privation maison. Il semble que le devenir se produise à partir de ces choses, comme tout à l'heure à partir du malade. C'est pourquoi, de même que dans ce cas-là, la chose n'est pas dite ce à partir de quoi elle est cela, de même ici, la statue n'est pas dite bois, mais il lui advient par un autre biais l'appellation de bois et non bois, d'airain ou non airain, de pierre ou non pierre. Et la maison est dite de briques et non briques. Car en effet, que la statue vienne du bois ou la maison des briques, si l'on prend bien garde, on ne peut pas dire cela d'une manière absolue, parce qu'il faut qu'il y ait changement de la chose à partir de laquelle se produit le devenir, et non permanence de celle-ci en son état premier. C'est donc pour cette raison que l'on s'exprime ainsi. Et c'est très joué sur le point de vue de l'expression, la manière. Là, philosophiquement, qu'est-ce que ça veut dire? J'essaie de comprendre un peu. Toujours la même chose. Dans l'ordre du devenir, parce que nous avons vu qu'il y a un devenir à devenir naturel et qui a un devenir artistique. Le devenir naturel, l'homme provient de l'homme. Le devenir artistique, la statue provient de l'idée de la statue et du bois, si c'est une statue de bois. Donc il y a les deux. Et c'est la coïncidence des deux qui fait la statue. Et je ne dirais pas en voyant la statue, oh quel beau bois. On le dit de temps en temps quand on veut éviter la qualification de la forme. On dit, oh, ce tableau, il est d'un bois de Mira. Ah, très bien. On voit très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on peut récupérer le bois. C'est une manière de... Tandis qu'autrement, vous dites, c'est une statue de bois. Et en venant statue, vous mettez la forme. Donc nous voyons que le bois, que la matière comme telle, est intégrée, mais elle ne définit pas. Qu'est-ce qui définit la statue? C'est sa forme. Autrement dit, le lien dans l'œuvre d'art entre la forme et la matière n'est pas le même que dans l'œuvre naturelle entre la nature forme et la nature matière. Ça qu'Aristote veut montrer. Vous n'allez pas dire que l'homme est fait du corps. Hein, pas fait du corps, quoi. Votre corps, c'est votre être. Tandis que je ne peux pas dire que la matière est l'être de la statue. Donc, c'est essayer de comprendre. C'est très astucieux, ça, mon point de vue. C'est évidemment tout à fait grec dans sa manière de voir la chose. C'est d'essayer de comprendre la relation qui existe entre forme, matière, dans l'ordre de l'œuvre. et dans l'ordre de la nature. Dans l'ordre de la nature, une œuvre naturelle. Dans l'ordre de la nature, la génération naturelle, un petit poussin. Un petit poussin, il est fait nature forme et nature matière. L'homme, il est fait nature forme et nature matière. Mais vous n'allez pas dire que l'homme est fait d'un corps. Il est un corps. Pourquoi ? Parce que dans l'œuvre de la nature, la forme et la matière sont co-principes. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit d'une statue d'airain, vous dites que cette statue est d'airain. Vous ne dites pas que cette statue, c'est l'airain. Vous ne dites pas que cette statue de bois, c'est le bois. Vous dites, c'est de bois. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la matière est intégrée dans l'œuvre, mais qu'elle n'est pas qu'au principe. Alors, vous voyez, c'est très intéressant, parce que ça fait comprendre que dans l'œuvre artistique, quel est le véritable principe ? C'est la forme. Tandis qu'au contraire, dans l'œuvre de la nature, quel est le vrai principe ? C'est pas la forme. C'est l'être naturel, c'est l'homme. Est-ce que vous arrivez à saisir ça ? Parce que c'est intéressant pour essayer de comprendre l'erreur de Platon. Et montrer que Platon, ces formes qui sont liées à la nature, qui sont liées à la matière, en réalité, Platon regarde l'univers comme une œuvre d'art et non pas comme une œuvre naturelle.